où on dit détente. C'est le matin. Il fait frais. L'Aveyron résonne en bas. Et une légère brume, buée, vapeur d'eau, remonte de la cascade. Les rayons du soleil se reflètent dans la rivière. C'est calme. Nous sommes mardi 27 juillet à la cuisine et nous allons ce soir entamer la première dégustation d'eau jamais organisée à la radio. Ce soir, l'onde dilettante est consacrée aux eaux de terroir. Les eaux de terroir, ce sont... on pourrait presque dire que c'est une mode aujourd'hui, les eaux de terroir. On avait de l'eau du robinet pendant longtemps, puis on a eu des eaux minérales, des eaux de source. Les eaux de terroir, c'est de véritables eaux de source, mais qui sont liées à un territoire. Le terroir, vous le savez sans doute, le terroir, c'est un terme, soi-disant, qui serait uniquement français et qui consacrerait un lien entre l'homme et son territoire au travers, en général, de l'alimentation. En parler ce soir et les déguster, la cuisine a invité... deux personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu, donc Sarah Van Uxem et Camille, bien sûr, de Toledo. Nous avons trois eaux et nous allons commencer avec cette première eau qui est sur ma gauche. Je pourrais presque, si j'avais vraiment été très méchant, faire une dégustation à l'aveugle, ce qui aurait permis de développer un imaginaire complètement débridé. Mais je vais quand même vous donner des indications sur cette première eau. Donc cette première eau, c'est une eau qui vient de Bagnères de Bigorre. Bagnères de Bigorre, c'est dans les Hautes-Pyrénées. C'est un lieu où il y a beaucoup de sources. Il y a une source tout particulièrement qui s'appelle la source Saint-Blaise, qui existe depuis plusieurs siècles vraisemblablement. Ils ont refait la source, c'est-à-dire ils ont refait le captage, ils ont refait également la fontaine en elle-même, en 1905. Donc jusqu'à 1905, c'était un cône de bois qui allait chercher l'eau au fond de la falaise et qui la ramenait. Le cône de bois, il était apparemment, ça devait être très joli, il était noyé dans l'argile. Un marbrier a proposé de refaire cette fontaine en 1905, donc maintenant c'est une fontaine en marbre. Et ils ont découvert que le captage était beaucoup plus abondant qu'auparavant. Alors aujourd'hui, cette eau, elle est recherchée par de nombreuses personnes. Les gens viennent quotidiennement pour remplir des bonbonnes, parce qu'elle a une particularité. C'est un élixir de longue vie. Donc, est-ce que ça sera une eau de terroir, un élixir de longue vie? Enfin, on va pouvoir discuter de tout ça, mais... je vous propose donc de goûter, je vais vous servir. Alors normalement, dans une dégustation, d'abord il y a la vue, on regarde si. Hein? Est-ce que cette eau est trouble? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est cristalline? Qu'est-ce que vous en pensez?
Parce que le verre est sable.
Le verre est assez brumeux, l'eau, on ne sait pas du coup. Ah, je vais me servir également, parce qu'après, ils vont penser que je cherche à les empoisonner. Non, vous pouvez... Alors après, vous pouvez sentir, peut-être, sentir. Il y a un peu... Il y a un nez, effectivement,
Mais c'est assez...
presque sucré.
Mais c'est un peu un supplice pour celles et ceux qui regardent, je pense. Parce
que oui, alors si des gens veulent goûter,
l'élixir
on a laissé quelques verres.
Monde... Non, en fait, c'est mieux une bière, finalement, peut-être. Ou... Bière ou vin blanc. Mais l'élixir de longue vie, quand même, ça a un titre qui, est... qui donne envie. Je trouve. Ou pas, d'ailleurs. L'élixir de courte vie.
Avec goûtons.
Goûtons. Oui, c'est framboise, non ? Il y a des framboises. Tu les as laissées dans un... à côté d'un framboisier.
On pourrait penser que... Ou alors elle a été dans un... Peut-être dans une bouteille... Enfin, alors, peut-être que la personne qui est allée le chercher...
Il y a quelque chose de fruité.
C'est pas une eau sèche, non ? Un peu sec.
Mmh. Alors elle est un petit peu... En vin, on dit astringent. Astringent. Donc ça sèche les papilles.
J'ai le souvenir d'une poétesse qui avait travaillé un recueil qui s'appelait L'eau super liquide. C'était de l'eau plus liquide que l'eau. C'était une... Elle avait inventé ça en poésie. J'essayais de me représenter en lisant sa poésie ce que ça pouvait être une eau super liquide. Mais ça prenait plus la forme d'une rêverie d'enfant, d'une eau qui serait plus que. C'était un joli recueil. Elle s'appelle Cécile Ménardi, je crois. Tu la connais ? Elle est poétesse, je crois qu'elle est, elle vit à Nice, il me semble, non ?
Entre Paris, Nice et Rome. Hein.
Ah oui, c'est ça.
Ouais.
Eh ben, L'eau super liquide, c'est un recueil de Cécile. Très joli recueil. Voilà, simplement. Donc là, je ne sais pas si elle est sèche, si elle est... Ça, je ne saurais pas dire. Mais c'est vraiment la première fois que je fais ça. La dernière fois que je l'ai vue, c'était dans un grand magasin et c'était pour tester des... Qu'est-ce que vous pensez de ce découpe légumes de ce...
Tu avais goûté des eaux ?
Non, je n'avais pas goûté des eaux. C'était plutôt sur ce mode de tester et commenter. Donc je ne sais pas ce qu'on doit faire, en fait.
Donc là, c'est un élixir. Donc un élixir, il faut savoir, ça vient de l'arabe et ça veut dire pierre philosophale. Ou plus tard, ça voudrait dire apparemment médicament également. Donc c'est une eau qui nous permet effectivement de...
D'aller mieux ?
D'aller mieux, oui.
Bah, je te dirai dans les jours à venir, dans les semaines à venir.
Donc les eaux quand même, c'est quelque chose qui est assez classique, de nous promettre monts et merveilles pour la santé.
Ouais, tu veux dire quelque chose ?
Tu veux dire... Non. pas encore.
Non, je peux vous raconter mon épisode à Lourdes.
Mais oui,
ouais. Parce... Je ne sais pas si vous avez déjà été à Lourdes. Quelqu'un était à Lourdes ici ? C'est assez... c'est très instructif. Ça m'a d'abord fait penser à un film de Fellini, de ce rapport entre le religieux, le paganisme... le fétichisme de la source. Puis toute la ville est construite, enfin, circule autour de cette falaise miraculeuse, avec des gens qui viennent remplir leurs bouteilles, et puis la marque de l'Église, donc l'emprise du christianisme sur la source miraculeuse, parce qu'évidemment, si on parle de ce qui sauve, il faut immédiatement que ce soit sanctifié, si c'est sanctifié, il faut immédiatement que l'Église catholique y mette son nez, parce qu'ils ont le monopole de la bénédiction dans ce pays. Mais c'est un lieu assez fort. J'y avais été avec mon fils. Et j'avais pas été totalement indifférent à la qualité de cette eau. Après, je pourrais vous en parler un peu plus longuement, mais j'ai pas goûté de l'eau depuis ce temps-là.
J'ai pas goûté d'eau depuis ce temps-là.
Oui, si tu veux que je rebondisse sur ce à quoi ça me fait penser de goûter de l'eau divine. En fait, ça me fait penser à plusieurs des textes de Heidegger sur la chose. Et je trouve que j'ai fait ma thèse, moi, sur la chose, sur la notion de chose, mais en droit. Et donc, en fait, il y a des textes sur la cruche qui réunit finalement le quadriparti heideggerien. La terre, le ciel, les vivants, justement, et les mortels. Comme si, finalement, dans la cruche, et donc à travers, finalement, l'eau qui est dans la cruche et que nous goûtons aujourd'hui, il y avait une réunion des différents éléments qui participent du monde et de la terre. Et finalement, Heidegger nous dit que la cruche qui rassemble, qui assemble le quadriparti, eh bien finalement, c'est la chose. Et la chose, justement, la Ding, ou la Ding en vieux allemand, je le prononce sans doute très mal, eh bien c'est justement l'affaire, le litige, le cas. Et donc finalement, la chose en droit, au départ, la chose, ça signifie justement le litige, l'affaire. Donc c'est comme si à travers finalement cette cruche et cette eau divine, eh bien tu me ramenais aux sources originales du mot chose en droit.
Wow. Magnifique. Alors, est-ce que vous avez terminé votre... Peut-être on va passer à la seconde. Donc là, la deuxième, c'est une eau potabilisée. Donc j'ai découvert que lorsqu'on marquait eau potable sur une fontaine ou sur un robinet, c'est en fait parce qu'elle a été traitée. Donc on peut tout à fait avoir des fontaines comme la première qui n'est pas une eau potabilisée, donc ça voudrait dire que c'est pas une eau potable. Pour autant, elle est quand même tout à fait buvable, elle est autorisée à la consommation. Celle-ci, elle a été potabilisée, et c'est l'eau de la Barousse. Alors la Barousse, c'est également dans les Hautes-Pyrénées, à la limite de l'Ariège, de la Haute-Garonne, pardon. Et la vallée, en fait, elle a une particularité, comme toute cette zone, qui a énormément de sources, mais vraiment énormément. Donc quand l'eau descend des montagnes, elle arrive vers Lannemezan, et Lannemezan, on appelle les gens, les locaux, les habitants, disent que c'est comme une éponge. Et ensuite, on voit toutes les rivières qui vont vers la Garonne, et qui forment comme un cône, encore une fois, qui forment un cône qui va vers la Garonne. Alors cette eau-là, de la Barousse, c'est un peu particulier parce que habituellement, on ne pouvait la consommer que dans la vallée de la Barousse. Et en l'an 2000, donc, pas si longtemps que ça, l'eau elle a été captée et ils ont construit un pipeline, comme on dit dans le pétrole, un pipeline de 100 km pour pouvoir la distribuer dans un certain nombre de villes dans le Gers. Lombez, Saint-Matan, Villejourdain. Voilà. On la goûte ? Ouais. Elle est plus souple. Elle doit être un peu chlorée normalement. Ils ont dû rajouter du chlore. On sent pas trop le chlore ?
Il se trouve que tout à l'heure, j'ai relu le premier article qui ouvre le code de l'environnement, l'article L110-1. Et qui nous explique justement que l'eau fait partie avec les ressources naturelles et autres du patrimoine commun de la nation française. Et ensuite, on nous définit la diversité biologique comme une variabilité des organismes vivants. Et on a introduit la géodiversité. Et dans la géodiversité, il y a la diversité hydrologique, la diversité des eaux. Donc c'est comme si tu nous illustrais... une dérivation aujourd'hui de la biodiversité à travers cette diversité des eaux.
Mmh. Alors là, cette troisième eau, vous la connaissez tous, c'est de l'eau de Vittel. Donc ça vient des Vosges. Depuis 2020, Nestlé, donc, qui possède la source de Vittel, est en procès avec un collectif, il y a des ONG, il y a des collectivités, parce que en fait, ils captent une quantité très importante d'eau, tellement importante que les habitants aujourd'hui, avec la réduction de la pluie, tellement importante que les habitants n'ont plus accès à l'eau, en ont de moins en moins, et il faut aujourd'hui qu'ils procèdent à des travaux pour aller chercher de l'eau dans une autre vallée, dans d'autres endroits, et permettre aux habitants de continuer à recevoir une eau potable.
Alors, je ne travaille pas, moi, sur ce cas-là. Je connais effectivement des juristes, par exemple, comme Isabelle Doucin, qui travaille sur le cas de cette eau Vittel, me semble-t-il. Ce que ça m'évoque, là, c'est le fait qu'en Italie, dans la ville de Naples, ils ont beaucoup travaillé sur la notion de bien commun, de beni communi, et il y a eu tout un travail justement pour que les citoyens puissent se réapproprier l'eau et que l'eau soit véritablement considérée comme le bien commun des citoyens. Donc là, effectivement, ce que ça m'évoque, c'est que J'imagine que dans le cas que tu as en tête, il y a, que les juristes ont en fait plein de fondements juridiques à faire valoir, et notamment, peut-être d'abord, l'article 714 du Code civil, qui définit les choses communes comme des choses qui n'appartiennent à personne, mais dont l'usage est commun à tous. Et après, on a un alinéa 2 qui nous dit que les lois de police en règlent l'usage des choses communes. Et très classiquement, dans les choses communes, on met l'eau, l'air aussi, mais d'abord l'eau. Donc je pense qu'il y a déjà cette notion d'eau qui participe du patrimoine commun de la nation, donc du patrimoine commun. Il y a aussi l'eau comme chose commune. Donc je pense qu'en repartant à des grands principes fondamentaux, on devrait être à même de défendre cette appartenance des eaux d'abord aux citoyens de la commune. Puis il y a aussi des articles dans le Code civil qui permettent, même lorsque l'eau appartient à un propriétaire, je me demande si ce n'est pas l'article 640, mais il faudrait vérifier, donc lorsque l'eau appartient à un propriétaire, enfin, qu'elle traverse son fond de terre, s'il y a à côté des habitants qui manquent d'eau, alors les habitants doivent avoir accès justement à cette eau. Donc on a des dispositions quand même dans le Code civil de 1804 qui permettent a priori de défendre finalement ce droit à tous de l'eau.
Ouais, ça fait le lien avec la conversation qu'on avait à l'issue de cet atelier, et que dans une sorte de spéculation juridique que Sarah connaît bien mieux que moi, la personnalisation juridique des écosystèmes, on pourrait très très bien imaginer qu'en plus de redevenir chose commune, il y ait un droit qui soit payé à la source. C'est-à-dire que si la source ou la rivière devenait une personnalité juridique, il y aurait une reversion en fait de la valeur ajoutée de l'extraction de type eau minérale vers le commun naturel, qui serait une source. Donc ça donne une sorte de rêverie assez stimulante d'ailleurs d'une autre manière de fonctionner à partir de ce que on a d'ailleurs l'intention de travailler avec Sarah et Mathieu autour du travail du vivant. Qu'est-ce que c'est un vivant qui travaille, l'eau étant la vie même, mais sans doute qualifiée par des scientifiques comme plutôt quelque chose de minéral, mais enfin d'ailleurs aussi beaucoup à discuter, parce qu'à mon avis, pour moi, l'eau est d'ailleurs la zone grise de l'animé et de l'inanimé. Hier soir, je vous parlais d'une langue que j'estime un peu magique, qui est une langue archaïque, qui est l'hébreu, mais le chaïm et le maïm c'est l'eau, le chaïm c'est la vie, et il y a quelque chose qui dans l'écriture même ne se distingue que par un chet, et qui a d'ailleurs une valeur numérique, enfin il y a tout un tas de ce qu'on appelle la gématria, donc on va lire tout un tas de choses dans ce simple déplacement, et parfois quand on dit qu'en déplaçant une lettre on change le sort des choses, quelque chose comme ça, tu changes une lettre et au lieu d'avoir du minéral, tu as de l'animé. Et je trouve qu'à une époque qui est celle, je crois, des sciences du vivant, où on s'interroge absolument sur cette sorte de frontière introuvable entre l'inanimé et l'animé, enfin comme si l'animé était dans l'inanimé, l'animé était source de vie. Je trouve que l'eau, c'est ça, quoi. C'est ce qui circule entre les deux, quoi.
Voilà, la dégustation est terminée. Cher public, si vous voulez venir déguster, je sais que c'était préféré la bière, mais bon, on ne sait jamais. Merci Sarah. Merci Camille. Et bonne soirée à tous.
Le dialogue des eaux que vous venez d'écouter a été conçu et animé par Ludovic Roif. L'enregistrement a eu lieu pendant le festival Le cours de l'eau, la cour et l'eau à la cuisine, centre d'art et de design à Nègrepelisse, en partenariat avec Les Nouveaux Terriens, l'observatoire des imaginaires ruraux. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur www.lesnouveauxterriens.fr.